de CSM, c'est Universitaire en action avec Lysen Bensta. À bientôt.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.
À la bonne heure, jusqu'à 20 heures. Bienvenue à La Bonne Heure, je m'appelle Oliver. On va être ensemble pour la prochaine heure. On a commencé avec Olivia Rodrigo qui sera en spectacle ce soir, ainsi que demain soir au Centre Bell, anciennement le Centre Molson. Si j'avais de l'argent, j'aurais sûrement été faire un tour, mais comme j'ai pas beaucoup de James Hyman money à mettre sur un spectacle de la sorte, ce soir à la place, je vais voir Arlo Parks au Théâtre Corona. Je sais que ça a changé de nom, mais c'est pas vrai, je vais appeler ça de même. C'est de tirer de son album Guts, la version Deluxe qui est parue vendredi dernier. On vient d'entendre un extrait de la chanson Obsessed, co-écrit avec Annie Clark, a.k.a. Saint-Vincent. Je trouve ça cute, je trouve ça le fun. Elle a des gros hits. Pour vrai, la pop dans les années 2020, c'est cool. C'est cool. On va se rappeler beaucoup, je crois, plus de bonnes chansons pop que les années 2010. Tu sais, j'ai bien des trucs qui ont mal vieilli, soit à cause des interprètes qui, eux, ont mal vieilli ou ont fait des affaires tout croche, et puis des chansons, tu sais, qui vieillissent mal. Des trucs que j'écoute depuis 4 ans qui se fait dans la pop, qui, je crois, vont beaucoup mieux vieillir. Je vais peut-être me tromper aussi dans quelques années, je ne sais trop, mais en tout cas, moi, j'ai repris goût à la musique pop. Puis je dis pas nécessairement commerciale, parce qu'il y a de la bonne pop qui se fait, qui joue pas plus dans les radios commerciales, mais des chansons qui sont entraînantes pour des nouvelles générations, des jeunes générations, avec des textes qui sont pas nécessairement insipides. Parce que, tu sais, la pop est souvent reliée avec insipide, alors que non, il y a beaucoup de verre d'oreille là-dedans, mais il y a des paroles qui peuvent être intéressantes, des messages, des chansons à texte aussi qui se fait dans la pop. Fait que, gros shout-out à eux. Par contre, c'est ça, tu sais, des billets à 200$, comme, c'est pas donné. Tu sais, moi, les bandes que je voulais voir quand ça coûtait bien de l'argent en 2003, 2004, 2005, je sais, ça fait 20 ans, mais moi, je mettais 50$ sur un spectacle. Je suis comme, oh boy, OK, ouais, je mets beaucoup d'argent sur un spectacle. Là, maintenant, des billets à 200$. Salutations aux parents qui, des fois, doivent déplaire à leurs enfants en disant, je sais que tu vas aller voir tel artiste, tu l'aimes beaucoup, mais on n'a pas les moyens de se payer ça. Maudit que c'est cher. Aujourd'hui, à l'émission, comme... je dois être au Théâtre Corona pour à peu près 20h30. J'ai une demi-heure de transport à faire. Je vais faire un long micro d'à peu près une demi-heure. Et après ça, je vais y aller en musique. Et puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine. J'ai même pas mon ordinateur avec moi parce que je veux pas amener un ordinateur dans une salle de spectacle. On sait plus trop à ce temps s'il est permis ou non. Traîner un sac à dos, me tentait pas. Moi, je suis pas un fan de vestiaire. Là, j'ai mon manteau. Ils vont-tu me demander d'aller me porter ça au vestiaire ou non? Faire la file au début du spectacle. Faire la file à la fin du spectacle. Ouf. J'ai l'air d'un coup qu'il n'y a pas le goût d'aller voir un show ce soir, mais moi, je suis pas un fan de spectacle l'hiver. Là. Je sais que c'est plutôt le printemps avec la météo présentement, mais on dirait qu'on a encore des réflexes d'hiver de comme les fans de vestiaire, c'est tant de pièces, tu fais la file, puis là, tu sais, ton manteau va être à côté d'un autre manteau de quelqu'un qui aime la cigarette, là, tu reviens et ton manteau sans smoke. Ah, des gros problèmes. J'avais beaucoup de choses à vous jaser, mais comme j'ai pas mon ordi, il y a des trucs, tu sais, que j'avais le goût de vous parler un peu plus sérieusement. Je suis tombé la semaine dernière, là, je vous parlais de la motion de Martine Biron Et puis là, après ça, j'ai réécouté. En fait, je suis tombé sur l'entrevue à Cube, l'émission d'Antoine Robitaille, que mon algorithme sur YouTube ne me recommande pas parce que à Cube, Antoine Robitaille, lui, il anime en direct de Québec. Fait que comme il est pas dans les studios à Montréal, ses émissions sont la plupart du temps pas filmées ou quelques entrevues s'ils font ça par Zoom, mais c'est pas nécessairement sur YouTube. Fait que je vois moins son contenu. Et puis, il a fait une entrevue avec Patrick Taillon. Puis c'était le 15 mars, on dirait que Patrick Taillon avait comme pas lu la motion ou le jugement à moitié, puis il a dit des trucs, puis après ça, il parlait de guerre culturelle, puis ça m'a rappelé que Patrick Taillon est sur le comité de sages. Puis là, j'étais comme, oh boy, ça s'enligne étrangement. Fait que je vais peut-être plus vous en parler dans les prochaines semaines. Je suis, je vous parle de Cube parce que mon émission était faite, là, à 5 heures. J'ai même eu le temps de faire une sieste cet après-midi parce que j'ai commencé tôt ce matin. T'sais, à 8 à 2, travail à la maison. Petite sieste d'une heure et demie pour être en forme pour le spectacle ce soir. C'est ça. Moi, j'étais un fan de sieste de plus en plus. Mes parents me disaient quand j'étais jeune que je ne voulais rien savoir de la sieste. Je pense que mes parents avaient besoin d'un break aussi. Fait que eux, la sieste l'après-midi, puis ils voulaient pas se faire déranger par la télé ou le bruit. Fait comme, allez dans votre chambre, même si vous dormez pas, faites semblant de fermer les yeux, ne faites pas de bruit. Puis là, je vieillis, puis je comprends également ce sentiment d'exaltation qui est la sieste, recharger un peu ses batteries dans l'après-midi pour être en forme en soirée. Donc, mon émission était faite. Et YouTube, avant d'enfermer mon satan, m'a suggéré une entrevue. En fait, c'était une chronique de Nick Payne. Nick Payne, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était sur le plateau Mont-Royal. Il était candidat pour Option nationale. Et puis, j'étais, mais son nom, ça look, Nick Payne. Et j'en parlais à mon ami Riff Tabrashi qui dit, ben oui, mais c'est un ancien guitariste de Éric Lapointe. Donc, il a été candidat pour Option nationale. Je pense qu'il anime à Radio, je vais pas dire n'importe quoi, je pense que c'est Radio Ville-Marie de mémoire. Je pense qu'une émission là. Il est également analyste politique à Cube. Et puis là, il a fait une chronique d'à peu près 8 minutes à l'émission de Sophie Durocher à Cube sur le gala des Oliviers. Et j'avais l'impression d'écouter, je sais pas s'il y a des fans de la soirée T'es encore jeune, le vu pas vu. C'est-à-dire deux personnes nous font une critique de quelque chose. Une personne l'a vu, l'autre ne l'a pas vu. Il faut deviner qui est qui. Sophie Durocher dit au début, moi je n'ai écouté que des bribes du gala. Nick Payne qui dit, moi je me suis tapé le gala. Mais ça... Je vais vous faire écouter deux extraits, puis le troisième extrait, c'est Sophie Durocher qui poliment un peu casse l'argumentaire de Nick Payne. Les Oliviers, dimanche, gala animé à Radio-Canada par Cathy Gauthier, Eve Côté. Ça dure 2 heures, on célèbre le meilleur, en tout cas de l'humour. Quelques catégories, en tout cas beaucoup plus qu'au Juno, qui avait 4 catégories en 2 heures. Et il y a des gens qui viennent présenter des numéros. Au début, il y a un gros numéro de variété où ils font un peu comme en direct de l'univers, mais ils font des chansons humoristiques interprétées par la crème de la crème en chanson. Puis après ça, les gens viennent présenter en fait un prix. Puis ça fait également, les prix sont un prétexte aussi pour faire un numéro humoristique. Il y a certaines années, les gens se forçaient beaucoup. C'était le fun. Il y a encore des numéros de présentation que j'écoute sur YouTube de temps à autre. Cette année, c'était pas mal en dents de scie. Honnêtement, c'était pas mal en dents de scie. On dirait que certains se sont préparés, d'autres plus ou moins. Mais Nick Payne, lui, il a vu ça différemment. Ça vous tente de pas être fâché? Parce que pour vrai, j'étais fâché chez nous. J'en parlais à ma blonde. T'étais comme, ben ouais, ça va faire une bonne émission. Je peux pas croire que c'était ça son argumentaire. Sans plus attendre, c'était cet après-midi à Cube. Nick Payne en chronique à l'émission de Sophie Durocher.
Un expert dans la chose fine du milieu d'humour. Tout de même, j'ai un regard là-dessus. D'abord, tout était conforme. Hein? Alors, il y avait... Tout était conforme, si tu veux, à l'esprit, à l'ambiance idéologique du moment dans le milieu culturel. Hein? Alors, il y avait la drag queen, il y avait
Mona de Grenoble.
La fluidité de genre, il y avait le moins possible d'hommes blancs apparemment cisgenres, trucs hétéronormatifs, machin. Il y en avait quand même, là, on peut pas s'en débarrasser complètement.
Puis moi, j'ai écouté le gala, puis j'étais comme, on dirait qu'on n'a pas vu le gala. Beaucoup de gens ont stické sur Mona de Grenoble, qui a été découverte de l'année. Avec raison, moi, elle me fait beaucoup rire. J'ai découvert son talent beaucoup dans les podcasts de Sous-Écoute et Mike Ward. OK, il part de la prémisse que, c'est ça, c'était un gala woke, puis il y avait pas beaucoup de place à l'homme blanc. Je vais juste vous lire les gagnants de la soirée. Et je dis les gagnants... Parce que ce sont tous des hommes cisgenres. Puis là, c'est là, je vous dis, j'avais l'impression que Nick Payne n'avait pas écouté le gala puis qu'il avait fait une chronique sur un coin de table. On manque de temps des fois dans la vie. Tu sais, je peux comprendre des fois on est un peu plus pressé, on va prendre un sujet un peu plus léger. Là, tu sais, il y a quelques semaines, voulait parler de la francisation des manuels, mais surtout en fait des électroménagers. Puis qui avait une chronique qu'il avait sûrement préparée puis qui a tassé ça du revers de la main pour parler justement parce que lui aussi avait vu le National Post sur justement personne avec un vagin. Elle avait l'air de rien avoir lu là-dessus. Puis Olivier Niquet a parlé de ça à son émission La journée est encore jeune dans sa chronique. Le Nick Payne était fâché après Olivier Niquet sur Twitter, mais il n'y avait pas d'argumentaire. Fait que, quand j'écoutais ça tantôt, je pensais aussi à Olivier Niquet. Puis j'étais, mais là, c'était une deuxième chronique que j'entends de Nick Payne, où il ne sait pas de quoi il parle. Je vais vous lire le nom des gagnants. Mathieu Dufour, Philippe Audrey-Larue-Saint-Jacques, qui a gagné à deux reprises. Mathieu Pepper pour Entre deux draps, émission télé. Arnaud Soli pour Club Soli, Billy Tellier, deux reprises, Charles Beauchesne, Jay La Liberté et Mona Grenoble, tu sais, c'est une drag queen, mais à la base, c'est également un homme aussi. Où est-ce qu'on on a forcé les hommes blancs cisgenres dans ce gala-là? Je sais pas. Regardez, on voyait avec les numéros, le numéro musical d'introduction, qui était là? Pierre Lapointe, Sonny Caouette, Éric Caouette, deux frères, donc trois hommes, Marie-Denise Pelletier, Patty Galland, Marie-Hélène Thibert et Léonard Lagacé. Il y avait encore des hommes là, est-ce qu'il y avait comme pas de point? Les présentations. Je vous dis, j'ai regardé le gala en accéléré pour en prendre en note tous les noms. C'est venu me chercher, parce que je pense qu'il n'a pas écouté le gala. Pour les présentations, animation F côté Cathy Gauthier, on peut faire... c'était pas vraiment un numéro de présentation, mais il y avait Steve Martin puis Martin Short qui étaient présents. On sait pas quand ça a été enregistré, mais ils étaient là. Il y avait Jessica Chartrand, Mégane Brouillard, Josiane Aubuchon, Sylvie Tourigny, Rosalie Vaillancourt. Fait, dans les présentations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a Mona de Grenoble. On va dire Mona de Grenoble 8, admettons là, qu'on est bon joueur. Pour les hommes, dans les présentations de prix, Claude Meunier, Nive, François Pérusse, Charles Tissère, Billy Tellier, Gilles Darroy, l'hommage à Michel Barrette que j'ai trouvé... vous mettez un prix, je pense que c'est Hugo Dumas qui a parlé de ça, qui a écrit ça dans sa chronique à la presse. Mettons, vous mettez le prix à quelqu'un, faites-y dire quelque chose, je sais pas. On veut souligner 40 ans de carrière, venez sur scène en parler. Je sais pas, c'est un flash comme ça. Gilles Darroy, comme je le disais, Simon Gouache, Mike Ward, Stéphane Rousseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que dans les présentations, il y avait plus d'hommes que de femmes. C'est moi qui comprends pas, ou c'est parce que peut-être Nick Payne est de mauvaise foi, ou lui, il a vu Mona de Grenoble, ou il a vu sa photo sur Twitter qui a été partagée par quelques personnes, dont Dominique Moret, qui cherche la controverse comme il faut. Et souvent, des fois, il réussit, des fois, il réussit pas. C'est pas un gala où, je vous le répète, là, tous les gagnants étaient des hommes. C'est genre... je comprends pas. Et là, il était encore plus loin, parce que là, c'est pas juste le fait que, selon lui, on voyait pas beaucoup d'hommes dans le gala, c'est qu'il y avait aussi des femmes. Puis là, il va nous parler de la diversité corporelle. Nick Payne, comme je le répète, analyste politique, qui faisait une chronique sur les Oliviers. On écoute, c'est à l'émission de Sophie Durocher cet après-midi.
Il y avait, je pense, ce qui est probablement symptomatique là, du milieu. Ah, mais j'oubliais. Pardon, évidemment, beaucoup de femmes, on mettait avant, beaucoup
co-animées
de
par deux
jeunes
femmes,
humoristes, à tel point là-dessus, là, commentaire plus ou moins politiquement correct, moi je te dirais que parmi ces nombreuses jeunes femmes-là qui ont toutes un peu la même voix, le même ton, qui crient, je sais plus qui est qui là-dedans, là. J'en aurais pris une.
Ben, c'était Eve Côté et Cathy Gauthier qui animaient, en tout cas.
Ça part d'Eve Côté de Cathy Gauthier, ouais. Bien sûr.
Mais ça va jusqu'à...
On en
ouais.
a vu plusieurs autres, y compris parmi les nominations, les nominés, qui sont un peu toutes dans le même moule. D'ailleurs, beaucoup de diversité corporelle aussi, hein, je vais le dire comme ça. Même, je dirais, une représentation plus forte que dans la société en général de diversité corporelle, surtout chez les femmes dans ce gala. Fin de la parenthèse non politiquement correcte. C'est un constat que j'ai fait aussi.
On reste demandé. Vous avez dit, mais en fait, c'est un hasard aussi, là?
Peut-être. Ouais, mais moi, je pense qu'il y a des choix. Je pense qu'on a vraiment fait l'effort, au minimum, de mettre en avant des femmes. Là, est-ce que la diversité corporelle, bon, bref.
Au minimum, mettre des femmes. Pourquoi parler de diversité corporelle? Pourquoi arriver avec cette espèce de, ça va être le moment non politiquement correct? C'est drôle parce que des fois, il y a des gens qui utilisent ce terme-là, au lieu de dire, le commentaire que je vais vous dire est un commentaire de dompe, est un commentaire de merde. Mais moi, je vais brander ça non politiquement correct. Moi, la diversité corporelle. Sur quoi Nick Payne se bat-il pour dire, Il y a de la diversité corporelle en ondes pendant ce gala-là. Bizarrement, il a uniquement ciblé les femmes, mais dans la société, c'est pas ce qu'on a vu à l'écran. Je sais pas sur quoi il se base pour dire ça. Par contre, quelqu'un qui vit dans la société comme moi, qui a vu nombre de personnes et diversité de corps dans sa vie, lorsque j'ouvrais la télé, ce n'était pas une représentation de ce que je voyais autour de moi dans mon Sainte-Rose natal, Laval, quand j'ai déménagé à Montréal, au Québec. Là, de plus en plus, oui, il y a un changement de morphologie à la télévision parce qu'on essaie, en tout cas, il y a des gens qui essaient bien fort, des fois c'est réussi, des fois plus ou moins, d'avoir une diversité de personnes, de diversité corporelle, linguistique, également, juste pour ce qui est de l'humour, là, il y a une diversité dans les genres humoristiques aussi. Tu sais, essayez que lorsqu'on ouvre la télé, on se reconnaît en tant que peuple. Moi, je vais dire ça comme ça. Moi, je vois aucun problème avec ça. Nick Payne, ça a l'air de l'avoir bien fâché de voir qu'il y avait de la diversité corporelle à la télévision. Puis qu'on se soit forcé. Moi, je suis content que, justement, un gars-là se force pour, justement, représenter également la diversité de son industrie, qu'il y ait plus de femmes en ondes. Parce que, tu sais, s'il y a des gens qu'on ne voit pas à la télévision, pour plusieurs personnes, on n'existe pas. Nombre de fois que j'ai entendu des entrevues d'acteurs, d'actrices, comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses, qui disent en entrevue, je n'étais pas à la télévision cette année, je fais mon épicerie. Ils disent, hey, on vous voit plus, qu'est-ce que vous faites? Parce que dans l'esprit de plusieurs personnes, on va se le dire, là, la télévision a été très, très longtemps, là, ça l'est beaucoup moins qu'avant, mais ça l'est encore très présent quand même. Un vecteur de culture, un vecteur de notre culture, ça passait par la télé. Oui, les arts vivants, oui, l'humour, mais moi, j'ai jamais autant consommé d'humour en écoutant la télévision que, justement, dans les bars, dans les salles de spectacle, ainsi de suite. Là, j'ai grandi avec Canal D, où il y avait le meilleur des galas des années 90-2000. Si vous voulez me parler d'un temps où l'humour était masculin, ben on va vous parler des années 80-90-2000. Là, ça tend à changer, puis je suis content de cela. Lorsqu'il dit « toutes les femmes avaient la même voix, j'en aurais pris une, j'aurais été correct », je pense que ça en dit plus sur Nick Payne que de la soirée, parce que peut-être les deux seules personnes qui peut-être peuvent avoir la même voix, des fois Rosalie Vaillancourt quand fait son personnage de petite fille excitée comme les bonnes années de Dodo, et Cathy Gauthier, où justement elle a eu Dominique Michel comme mentor, fait que peut-être des fois, dans la manière dont ils s'expriment, peuvent avoir la même voix, mais je veux dire, nombre d'humoristes masculins aussi qui ont la même voix, et ça, on n'en parle pas. En tout cas, Nick Payne n'en parle pas. Pour vrai, j'écoutais ça, puis j'étais comme, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui a pas écouté le gala, qui, justement, a beaucoup de préjugés et voulait les étaler sur la place publique. Quand je dis la place publique, je sais que c'est Cube, mais là, Cube, c'est parce que c'est rendu à la télé maintenant, là, tu sais, je sais que plusieurs personnes sont, dont moi, ne sont pas abonnés. Mais si vous êtes avec Vidéotron, on vous force à avoir Cube gratuitement jusqu'à, je pense que c'est la mi-avril, là, pendant 2 mois. Quand j'ai appris ça, j'ai ouvert ma télé, puis j'ai vu, gros plan, une entrevue avec Mathieu Bock-Côté, Éric Duhaime. J'ai tout de suite refermé ma télévision. Mais maintenant, ils sont à la télé, je me dis, tu sais, il y a comme un niveau à atteindre, je sais pas. Puis après ça, là, le reste de sa chronique, il parle sur le français, parce que oui, il fait français, lui tient à cœur, et avec raison. Mais là, j'avais l'impression de lire une vieille chronique de Denise Bombardier de l'école sur le français, les humoristes, disant, bon, on dirait qu'on entend des gens dans les bars qui font de l'humour, le français pas assez soigné. Puis là, vers la fin, Sophie Durocher trouve ça ironique qu'il utilise le gala Les Oliviers 2024, alors que Philippe Audrey Larue-Saint-Jacques a gagné, auteur de l'année et spectacle d'humour de l'année. Justement, on écoute Sophie Durocher à la fin de la chronique de Nick Payne, aujourd'hui à Cube.
Mais c'est assez intéressant que tu choisisses ce gala-ci de cette année pour déplorer un certain nivellement vers le bas. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça que tu essaies de nous dire. Et en même temps, c'est ironique, donc, parce que le grand gagnant de la soirée, c'est quand même Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui est la seule personne que je connais qui, d'abord, a un titre de spectacle qui est inspiré d'Alfred de Musset et qui, parce que j'ai vu son spectacle, fait des blagues à un moment donné sur la rivalité. Pas juste sur Camus. Il fait une blague sur la rivalité entre Camus et Sartre. Et ça, oui. Je veux dire, D'abord, faut que tu calcules la quantité de gens qui lisent Camus, et en plus que tu divises ça par la quantité de gens qui sont au courant de la chicane épique entre Camus et Sartre. Puis le gars, il cite Rimbaud, puis il cite... Alors, quand même, tu peux pas reprocher à P-A-L-S-J de niveler vers le bas ou de pas bien parler français, quand même.
Je te suis là-dessus. C'est pour ça que je disais d'emblée, peut-être que ce gars-là trahit un peu, peut-être qu'il ne représente pas correctement ce qui est vraiment dans son ensemble, le milieu de l'humour. Puis voilà, la rue Saint-Jacques exprime parfaitement que c'est peut-être le cas.
J'ai rien compris de ce qu'il a dit à la fin, comme si, ah oui, mais le gala de l'humour, les Olivier ne représente pas. Oui, c'est une parcelle. Je veux dire, il y a bien des humoristes qui ne se sont pas inscrits. Tu sais, quand on voyait le numéro de l'année, moi, j'étais comme, pourquoi il y a deux roasts de comédia qui sont dans le numéro de l'année? Je l'ai compris dans la chronique de Hugo Dumas toujours, où il disait, ben, il fallait que ça soit dans l'année puis que ça soit pas tiré d'un spectacle, d'un one-man show ou d'un spectacle complet d'humour, parce qu'à l'époque, c'était ça, tu sais. C'est un numéro tiré d'un spectacle, c'était un numéro de l'année. À quoi ça sert peut-être d'avoir cette catégorie-là, numéro d'humour de l'année, si c'est des numéros qui ne sont pas dans les spectacles des autres humoristes, ce sont des numéros qu'on va faire dans un gala, dans une présentation peut-être, ou dans une émission spéciale où on va roaster des gens. Je me dis, peut-être le terme numéro d'humour de l'année va peut-être être moins là, mais tu peux pas dire le gala ne représente pas l'humour. Mais Philippe Audrey Larue Saint-Jacques a gagné deux Oliviers. On dirait qu'il savait pas que Philippe Audrey Larue Saint-Jacques avait gagné deux Oliviers. Fait que moi, je tends à le dire souvent. C'est un privilège d'avoir une tribune. Moi, je suis chanceux, là. J'ai deux émissions par semaine depuis nombre d'années sur les ondes FM ici à CISM. Qu'il y ait 5 personnes qui m'écoutent ou 5 000 personnes qui m'écoutent l'heure. Je me force pour dire quelque chose d'intelligent et d'intelligible. Ça, c'est Guillaume Vincenot, l'ancien directeur de la programmation, qui nous avait dit ça à l'époque. Et ça, ça me reste toujours en tête. Je me dis, si je dis quelque chose à la télé, c'est encore, tu sais, il y a encore plus de codes d'écoute. Tu te forces encore plus? Non, tu devrais toujours te forcer, peu importe où est ton auditoire, le nombre de personnes qui t'écoutent, parce que tu sais jamais qui t'écoute. Tu sais jamais qui, nécessairement, tu vas heurter carrément. Tu sais, moi, j'étais un homme blanc, c'est genre, j'écoute ce que Nick Payne dit, je suis comme, si, bois, c'est de la merde ce qu'il dit. Imaginez être une femme qui se dit depuis quelques années, hey, c'est le fun, on voit plus de femmes à la télévision, je me reconnais plus dans certains sujets qui sont abordés maintenant, pour ce qui est de la diversité de corps, par exemple, puis ça a l'air de chicoter beaucoup Nick Payne là-dessus. Quoi, lui, il aimait mieux les années 90 où toutes les femmes se ressemblaient, étaient sur le même frame de chat. Je sais pas, je trouve ça vraiment, triste de voir que cet homme-là, avec son temps de tribune qu'il a eu dans sa chronique aujourd'hui à Cube, c'est ça qu'il a décidé de faire. Pas qu'il y avait d'autres sujets, il peut bien parler de ce qu'il veut. Il aurait pu parler des Oliviers, dire bon ben oui effectivement c'était pas le gala de l'année. Moi j'ai beaucoup mieux personnellement aimé l'année dernière le gala de Catherine Levaque. Ça a graffiné peut-être un peu plus. Certains ont pas aimé la parodie de certains humoristes des années 90 où ils ont amalgamé plusieurs travers de numéros d'humour des années 90. Mais cette année, c'est ça, c'était pas mal en dents de scie. J'ai ri à quelques reprises. Des humoristes que j'aime beaucoup m'ont fait plus ou moins rire. Il y a des numéros qui étaient de présentation qui étaient très longs, qui auraient pu être serrés. Je veux dire, ça, on peut dire ça. Mais commencer à dire, on cherchait les hommes blancs. Voyons, vous avez pas vu les Oliviers pour dire ça, je crois. Autre chose qui m'a, c'est un spécial aujourd'hui, des choses qui m'ont tracassé. Closer à La Rochelle, j'avais vu qu'elle avait participé à l'émission de Mathieu Bock-Côté à Cube, mais aussi elle avait elle était en entrevue la semaine dernière à l'émission Tout peut arriver sur les ondes de la radio de Radio-Canada animée par Marie-Louise Arsenault. Claudia La Rochelle est journaliste, animatrice, écrivaine québécoise. Elle aussi, elle a la langue française à cœur. Elle a à cœur le français au Québec. Puis, au début, j'avais écouté son entrevue à Cube et puis, vu que ça avait été à Cube, ça avait été relayé sur toutes les plateformes de Québécois, en fait, avec un titre quand même assez... je dirais choquant. Je me demandais où est-ce qu'elle sortait ce chiffre-là, dire dans 10 ans, on parlera plus français à Montréal. Mais se base sur quelle étude? Est-ce que c'est Frédéric Lacroix qui a encore écrit des trucs un peu étranges? Je ne sais trop. On va écouter un extrait de son entrevue où justement Marie-Louise Arsenault lui demande d'où ça vient ce pronostic-là de dans 10 ans, on parlera plus français au Québec et à Montréal. Puis elle a dit au Québec, après ça à Montréal. On écoute.
Vous allez loin là, dans un autre texte que vous avez fait paraître le 19 février
dernier. Je vais loin. Hein?
Non, mais c'est intéressant. Vous écrivez à ce rythme sans être devineresse. J'estime que dans un peu moins de 10 ans, nous ne parlerons plus français à Montréal. Mm-hmm. Ça, c'est 2034. Voire au Québec. Je ne suis pas alarmiste. Je n'exagère pas. Non, je n'ai jamais été aussi lucide, jamais aussi sérieuse. Ouais. Qu'est-ce qui vous permet de croire qu'on ne parlera plus français?
On a eu beaucoup de
à Montréal dans 10 ans.
C'est pas les statistiques qui
ailleurs au Québec.
Ouais, c'est ça. Non, mais plutôt ça part plutôt à Montréal. Je me suis dit que s'il n'y avait pas de travail collectif qui est fait, ben individuel, mais aussi collectif pour renverser la tendance, pour être une meilleure société d'accueil aussi, c'est possible effectivement qu'on voit le déclin du français.
Fait que là, après ça, elle nous dit, bon, parce qu'elle a écrit une chronique sur le site avenue.ca, le site que je ne connaissais pas, une brève chronique à ce sujet. Par la suite, son entrevue à Cube, là, ça a été titré « Déclin à Montréal, le français, une langue morte d'ici 10 ans ». Comme c'était pas basé sur grand-chose, ils ont mis un point d'interrogation à la fin. Elle-même le dit, c'est pas basé sur une statistique, mais si on fait rien, ça pourrait arriver. Le problème avec ces choses-là, c'est qu'on peut se poser des questions sur le français à Montréal. Je suis d'accord avec ça. Faudrait en faire plus. Il y a des très belles initiatives, là, justement, là, les macarons dans certains commerces, parce que plusieurs personnes vont attribuer le déclin du français, même si on leur sort des chiffres, puis même si là, c'est des différentes chapelles. Tu sais, qu'est-ce qui est plus important? La langue parlée à la maison ou la langue de travail, ou est-ce qu'on peut avoir une conversation en français? Oui, il doit y avoir des gens qui doivent surévaluer leurs compétences en français. Puis c'est quoi avoir une conversation en français? Je vis dans le cadre de mon travail à tous les jours. Des gens qui parlent anglais, qui parlent français, qui vont avoir une conversation avec moi en français lorsqu'ils appellent à la ville de Laval. Des fois, il y a certains mots techniques qu'ils ne maîtrisent pas, puis c'est bien correct avec ça. Je leur explique, on finit par s'entendre, puis se comprendre. Il y a des nouveaux arrivants également aussi, puis j'en ai parlé il y a plusieurs semaines, là, le documentaire à Rade. Que vous pouvez retrouver encore, je pense encore sur tout.tv, où est-ce que justement on suivait une classe de francisation, puis est-ce que 6 mois pour apprendre le français c'est suffisant? Ils en ont parlé également, tout peut arriver, et non, ça semble pas être suffisant, puis il faut se mettre dans la peau justement de nouvelles arrivants qui viennent ici soit pour le travail, les études, peuvent avoir une famille, doivent travailler beaucoup pour subvenir aux besoins de leur famille, et ça peut être complexe d'avoir des cours de francisation aussi. Puis on le voyait dans le documentaire, certains quittaient après l'étape 1, l'étape 2, parce qu'ils manquaient de temps, parce qu'ils devaient poursuivre leurs études, continuer leurs études, ou sinon pour le travail. On peut s'interroger là-dessus, mais quand on arrive avec cette manière-là, c'est-à-dire dans 10 ans, on parlera plus français à Montréal, ben il y a des gens qui ont juste plus le goût d'écouter ce que Mme La Rochelle a à dire là-dessus, ou juste dire, ben c'est une manière de me faire inviter par la suite, parce que c'est peut-être grâce à ça que Mathieu Bocoté a dit, tiens, on va l'inviter parce que elle nous dit que dans 10 ans, on parlera plus français à Montréal. Ça fit avec mon narratif à moi, peut-être, je ne sais trop. Justement, ça, c'était, tout peut arriver, c'était samedi dernier. On remonte au 4 mars, je crois, de mémoire, là, je viens de mémoire, à l'émission de Mathieu Bocoté. Elle revient justement sur son pronostic de 10 ans, puis de voir d'où elle sort ce 10 ans-là. Encore une fois, ben ça sort de nulle part. Fait que pourquoi relayer une information qui est fausse et inventée? Je crois que ça ne sert aucunement le propos. On écoute.
Alors, il y a une phrase dans votre texte qui est parue il y a quelques jours sur le rapport au français. Il y a une phrase qui m'a frappé. Vous dites pas dans 50 ans, dans 60 ans, dans 70 ans, il se pourrait que le français soit balayé à Montréal. Vous dites dans 10 ans, il se pourrait que le français soit... J'allais dire presque une langue morte, à tout le moins une langue désormais folklorique à Montréal. Qu'est-ce qui vous amène à penser cela?
Ça fait quelques années, Mathieu, que je m'interroge sur la question du français, le fait français à Montréal, mais au Québec. Et j'en parle dans mes cercles, hein, parce que je suis très impliquée dans différents cercles qui s'affairent à promouvoir le français, son rayonnement et tout ça. Et à un moment donné, je me disais, c'est quoi le chiffre qu'on peut mettre sur la table? Est-ce qu'il y a un chiffre? Parce que moi, ça m'inquiète. On en parle, le français se perd. De plus en plus, les enfants le malmènent ou du moins l'évacuent complètement, tout en l'aimant quand même. Puis ça, on pourra peut-être y revenir. Je me dis, c'est quoi? Y a-t-il un chiffre, des statistiques? Est-ce qu'il y a eu des études? Parce que moi, j'en veux des chiffres. Je veux des données pour qu'on se presse. Parce que là, je sais que le temps presse. Et... il n'y a pas eu d'études en tant que tel. En tout cas, moi, j'ai pas vu de résultats. Je suis pas devineresse, malheureusement. Mais ce qu'on peut dire, c'est ce que j'entends, le chiffre là, le chiffre magique dont tout le monde parle, c'est 10 ans. C'est 10.
Il n'y a pas d'études, j'en ai pas vu. J'ai l'impression d'entendre Geneviève Janson. J'en ai jamais pris, on m'en a jamais offert. Fait que j'ai pas d'études. Puis dans l'émission de Marie-Louise Arsenault, il y avait une phrase que j'aurais dû vous ramener où elle disait, tu sais, les statistiques, on les comprend pas tout le temps. Fait que des fois, je les utilise pas parce que je les comprends pas. Puis ça, c'est bien correct aussi parce que des fois, effectivement, des gens qui confondent langue parlée à la maison, langue de travail, puis également être capable de parler justement le français. Des gens qui parlent parfaitement français, puis à la maison, ils parlent l'anglais. Ils parlent en anglais ou ils parlent une troisième langue aussi. Mais pour certaines personnes, ça, c'est du déclin, le déclin du français. D'autres qui me disent, il n'y a pas vraiment de déclin du français présentement parce que les gens peuvent encore communiquer. Mais est-ce que c'est seulement communiquer l'important ou le plaisir d'avoir une langue commune, c'est qu'elle soit utilisée et non pas utilisée lorsqu'on n'a plus le choix versus être utilisée à la maison, puis au travail, puis ainsi de suite. Ça, on peut avoir le débat, mais encore une fois, je reviens là-dessus. Dire, s'il n'y a pas de chiffre qui existe, parce que elle n'a pas vu de statistiques, puis là, elle nous dit le chiffre que les gens parlent dans mon cercle, c'est 10 ans. Ce chiffre-là sort de nulle part. C'est ça qui est dommage, parce que on peut s'arrêter juste à ça, puis plus écouter le reste du discours de Mme La Rochelle, que je trouve intéressant, mais qui revient aussi dans sa perception à elle. C'est-à-dire, moi, je fais des tournées de classe pour mon travail, je vais parler avec des étudiantes, des étudiants. Je le vois dans certaines classes et surtout dans certains corridors d'écoles francophones où on parle anglais et j'ai entendu des enseignantes et des enseignants dire en français, s'il vous plaît. Je crois pas qu'ils citaient Pierre-Carl Pedalo là-dessus, mais que, oui, il y a des gens qui, pour une raison X, Y, Z, vont parler en anglais dans une école francophone. Pourquoi cela? On peut s'interroger là-dessus. C'est super pertinent, mais sortir des chiffres comme ça, ça m'énerve un peu. Fait que j'avais le goût de vous en parler là-dessus. Encore Cube, je vous dis, j'écoute peut-être trop de Cube ces temps-ci, mais j'ai trouvé intéressant Joseph Facal. Je sais que c'est de plus en plus rare, mais moi, il y a un topo à l'époque où, justement, lorsqu'il était parent et ministre, il avait passé au franc-tireur. J'avais trouvé que c'était une entrevue fort pertinente. J'avais pu assister également à une présentation qu'il avait donnée à HEC Montréal quand j'étais étudiant là-bas. Puis, depuis quelques années, à chaque fois que je lis des chroniques de Joseph Facal, j'ai l'impression que c'est ça la mode de dire on va exagérer, on va juste des fois sortir des éléments de son contexte pour faire une chronique choc, pour faire des clics, pour faire plus d'argent, pour faire vivre Québécois. On est-tu rendu là maintenant dans ce modèle journalistique? Moi, ça me fait peur, pour être honnête. Parce que si on fait juste gonfler des ballons pour se faire peur, ça servira plus à rien. En tout cas, Joseph Facal, par contre, est revenu dans le passé parce que il y a deux semaines, justement, lorsqu'on parlait de la motion de Martine Biron, il y a Jean-Philippe Cipriani qui avait fait un lien avec la motion à l'époque d'Yves Michaud. Puis moi, je m'en rappelle de la motion d'Yves Michaud parce que M. Michaud était venu à l'époque à l'émission Zone de résistance avec Bernard Landry aussi. J'ai une photo de ça avec Benoît Perron que je salue de l'au-delà. Mais en fait, il est juste devant moi parce qu'on a son signet qu'on a gardé ici dans le studio. Une belle photo de lui, en tout cas, toute la gang que j'ai chez moi. Et puis justement, Yves Michaud était venu parler de cela. Puis moi, j'étais comme, voyons, ça n'a pas de maudit bon sens. Je veux dire, une motion de l'Assemblée nationale contre les propos d'un simple citoyen qui, à l'époque, puis on comprend qu'il y avait des magouilles parce que justement, pourquoi le PLQ a accepté de voter ça, puis le PQ, parce qu'il voulait écarter peut-être M. Michaud devenir candidat pour le Parti québécois. Fait qu'il y a eu beaucoup de jeux de coulisses en trame de fond, mais ça reste qu'on a taxé d'antisémites Yves Michaud. Puis quand tu creuses là-dessus, tu te rends compte que c'est pas ça qu'il a dit, mais on a fait passer ça pour ça, puis que M. Michaud était venu en parler. C'est encore disponible, je pense, sur le SoundCloud de CISM. Ça vous tente d'aller écouter l'entrevue. Je vais vous ressortir ça, puis peut-être mettre ça sur la page Facebook de l'émission. Je mets plus grand-chose sur la page Facebook de La Bonne Heure, mais ça serait intéressant d'écouter ça. Puis il t'a dit, ben regarde, depuis des années, je vais voir tous les députés à l'époque qui avaient voté pour cette motion-là. Plusieurs se sont excusés. Et Joseph Facal était député à l'époque, bien sûr, du Parti québécois. Il avait voté cette motion-là et à l'émission de Richard Martineau, il explique des fois comment dans l'empressement on peut voter sur quelque chose en faisant confiance, en suivant des fois des lignes de parti, puis en se rendant compte par la suite, on a-tu fait la bonne affaire? On écoute Joseph Facal, c'était la semaine dernière, à l'émission de Richard Martineau à Cube.
Nous sommes très exactement le 14 décembre 2000. Je suis à ce moment-là député et ministre dans le gouvernement de Lucien Bouchard. Nous arrivons le matin pour la période des questions. C'est toujours un moment fébrile. Les ministres se réunissent dans une petite antichambre derrière le trône du président et on passe en revue ce que risquent d'être les questions de l'opposition. Généralement, l'opposition s'appuie sur ce qu'on trouve dans les journaux du matin ou dans le scandale qui circule ces temps-ci. Et là, vraiment, tu rentres dans ta bulle. C'est extrêmement stressant. Tu te prépares, tu te dis d'où les coups vont venir. Puis tu sais évidemment que la question la plus terrible, c'est celle que tu n'as pas prévue, qui te force à te lever. Donc, chacun est dans sa bulle. Je sens néanmoins une espèce de fébrilité particulière. Et là, on nous annonce qu'une motion d'urgence sera déposée conjointement par un député du Parti québécois et un député libéral, André Boulris et Lawrence Bergman, deux collègues estimés de tous. La motion, qu'on prend pas la peine de lire, condamne les propos supposément inacceptables qu'aurait tenu Yves Michaud à l'endroit des communautés ethniques et de la communauté juive en particulier la veille, donc le 13 décembre, devant les États généraux sur la langue française. Richard, je l'admets, on demande même pas à voir quels seraient ses propos supposément condamnables. On ne vérifie pas. On fait confiance. On est dans une espèce de sauna politique. Chacun pense à ses petites affaires. On adopte la motion sans débat, à l'unanimité, 109-0 en quelques secondes. Rapidement, on entend dire que c'est pas ça que Michaud aurait dit, qu'il n'y avait rien de terrible.
Puis c'est depuis quelques semaines qu'on se rend compte que, tu sais, pour ceux qui suivent la politique, des fois on voit bien que l'émotion, des fois l'unanimité, c'est pas grand-chose. Puis des fois l'Assemblée se prononce sur des enjeux qu'il ne maîtrise pas nécessairement. Ça n'a pas de force de loi. Des fois c'est juste pour sa part de bons sentiments. Mais de voir comme ça qu'une injustice qui a perduré pendant nombre d'années à sujet, quand ils ont reposé la question à François Legault, qui semblerait-il, là, j'ai pas pu vérifier, par certains disent deux, d'autres disent c'est un, il reste un seul député de cette époque-là qui est encore en chambre, qui siège encore. Puis là, ça donne que c'est le premier ministre du Québec, François Legault, à l'époque où il était au Parti québécois, qui dit « Ah non, moi, je suis bien d'accord avec mon vote », puis il revient sur une entrevue radio alors que c'était pas ça que la motion... Moi, je trouve ça bien triste. Ça a l'air qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Là, on rendait hommage à Yves Michaud à l'Assemblée nationale au Salon Bleu. Je vais aller écouter ça cette semaine. Il y a le Parti québécois qui peut-être voulait refaire une motion là-dessus, mais ça a l'air que la famille, c'est Jonathan Trudeau qui disait ça ce matin au 98.5, ne veut pas non plus reparler de ça dans un moment qui est difficile parce qu'ils ont perdu un être cher. T'sais. Ils ont eu le goût de refaire de la politique dans un moment de la sorte. Mais ça nous rappelle encore une fois que des fois, pour des jeux de coulisses, des magouilles politiques, on va faire porter en fait une étiquette à une personne pendant nombre d'années, pendant des décennies. Des étiquettes, des fois, qui ne s'enlèvent pas. Et après ça, lorsqu'on gratte un peu, on se rend compte que non, M. Michaud n'a pas dit ça. Non, les propos de M. Michaud n'étaient pas antisémites. Mais tu sais, l'Assemblée nationale s'est prononcée là-dessus sur un simple citoyen à l'époque. C'est quand même quelque chose. Puis, le 15 mars dernier, lorsque j'écoutais Zone Info, on repassait une clip de François Legault où il parlait de la motion de Martine Biron, de savoir s'il avait lu le jugement de la Cour suprême. On dirait que l'histoire se répète. Bégaye, on écoute François Legault.
Pouvez-vous nous résumer un peu ce que vous avez compris de ce jugement-là?
Moi, je ne l'ai pas lu. Mais ce que je vous dis, c'est que je veux m'assurer qu'on défende les femmes du Québec.
Eh, hey, boy. Je termine l'émission. On va passer en musique par la suite. Là, comme je dis, c'est une émission un peu spéciale. Moi, je m'en vais à mon spectacle. Puis on va se retrouver la semaine prochaine, 2 avril. Je termine avec, pour ceux qui peut-être ne l'ont pas vu, quand des amis ont partagé ça sur les médias sociaux, j'en revenais pas. Meta a décidé sur Instagram et Facebook que le contenu politique est susceptible de mentionner des gouvernements, des élections ou des enjeux sociaux qui touchent un groupe de gens ou la société en général. Et donc, eux, ils ont décidé que, de facto, si vous avez un compte Instagram ou Facebook, c'était coché, limité. Donc, vous pourriez voir moins de sujets portant sur la politique ou des enjeux sociaux dans votre contenu suggéré. Et que si vous ne voulez pas limiter votre algorithme à ne pas voir d'enjeux politiques et de politique et d'enjeux sociaux, faut aller justement cocher ne pas limiter. J'en revenais pas, pour être honnête. Je veux dire, je suis pas le premier à vous parler de ça là. Moi, j'ai un algorithme. Vous avez tous des algorithmes, des suggestions, des fois de trucs que je n'ai pas demandé, des contenus misogynes, racistes, des gens qui propagent de la fausse information en vue-tu en v'là, parce que ça crée des clics. Ça crée des clics, ça crée de l'engagement. Fait que, il y a beaucoup de médias sociaux qui ne carburent qu'à cela, parce que c'est avec ça qu'on fait du cash. Un peu comme à l'époque des chroniques de Richard Martineau, lorsque c'était abondamment relayé sur les médias sociaux. Plusieurs disaient, regarde, même si t'es pas content de ce que Richard Martineau a écrit, le fait que tu la partages, que les gens commentent, qu'ils cliquent sur le lien pour aller lire et être fâchés d'une chronique de Martineau, c'est ce que Québécois veut. Eux, ils s'en foutent que les gens lisent une chronique en étant d'accord ou pas d'accord avec ça. L'important, c'est que ça clique. C'est ça qui crée du revenu publicitaire. Ce modèle-là a été également emprunté avec nombre de médias sociaux. C'est de même qu'on fonctionne. Mais d'un autre côté, je veux dire, les enjeux sociaux et la politique aussi créent de l'engagement, créent des réactions. Pourquoi limiter ces contenus-là? Ça m'a tracassé toute la semaine, ça m'a fait suer. Moi, je suis allé changer ça sur mes applications. Mais de voir que c'est là qu'ils tracent la ligne des enjeux sociaux puis de la politique, oh là, faut limiter ça, alors que j'aimerais beaucoup mieux avoir quelque chose qu'on puisse, dans notre application, aller décocher, c'est-à-dire limiter des contenus misogynes, des contenus racistes. Mais bon, ça a l'air que ce bouton-là n'a pas encore été inventé. Je vous laisse avec Harlow Park, justement, que je m'en vais voir ce soir, tiré de la version deluxe de son plus récent album. On va entendre la pièce I'm Sorry avec Loose and the Yakuza sur les ondes de la marche, toujours plus de hits. Bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine.
Un parfum enivrant. réanimé, bulle d'oxygène dans le sang, la lueur qui descend, la chaleur entre les jambes.
ici c'est Petit Béliveau, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radio campus de la planète Terre.
Situé au cœur du centre-ville de Saint-Hyacinthe, le Zarico est la salle de spectacle incontournable dans le paysage québécois. Ce printemps, le Zarico vous promet votre dose d'artistes émergents et reconnus sur les scènes alternatives du Québec. Étienne Dufresne, Violette B, Les Deluxe, Rosalie Ayotte, Libelle, Marco Emma, Philippe B, Charlotte Brousseau et Anacnid. Rendez-vous sur lezarico.com pour tous les détails et la programmation complète. Venez vivre l'expérience Le Zarico. Parce que Le Zarico, c'est tout. Accessible avec l'autobus 200 à partir du métro Longueuil.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.
You're the man to wonder.